prochain à une heure très raisonnable, 7h30 du matin. Raisonnable pour nos épouses si nous sommes mariés, parce que ça nous permet d'être de nouveau à la maison pour leur servir le petit-déj à 9h30. Donc, n'est-ce pas bien intentionné? Oui, merci pasteur d'y avoir pensé. Et oui, j'y serai par la grâce de Dieu. Mais pour ce faire, je dois cocher un doodle que vous allez recevoir en rentrant dans vos boîtes mail. Si vous ne recevez pas encore des informations de l'Église, vous pouvez nous donner vos coordonnées, un petit formulaire à remplir. Mais si vous venez d'arriver, je pense que c'est bien, juste pour, dans un premier temps, d'observer un peu ce que nous faisons. Venez à l'étage après cette réunion si vous avez une petite demi-heure, et ce sera avec joie qu'on vous explique un peu plus. Donc, nous essayons maintenant de terminer cette série dans le livre des Hébreux. Peut-être pour certains, nous venons tout juste de commencer, c'était un peu mon impression, moi. Mais maintenant, on prévoit autre chose à partir de la semaine prochaine. Nous allons faire deux prédications sur le thème de l'identité. C'est un thème important aujourd'hui. Qui suis-je par rapport à tout ce que le monde me dit, ce que je suis? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que je suis? Et comment est-ce que je peux aller de l'avant avec l'identité que le Seigneur me donne? D'abord à l'image de Dieu et ensuite créer à l'image de son fils Jésus-Christ. C'est ça ce que nous allons voir ensemble à partir de la semaine prochaine. Mais maintenant, essayons donc de voir la fin de cette première section du livre des Hébreux pour que nous soyons exhortés, encouragés. Vous allez trouver sur le dos de votre feuillet un petit plan pour vous aider à suivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu de travail à faire avant d'arriver à des exhortations. Donc, au boulot, chers amis, avec les cerveaux bien engagés, mais aussi avec l'aide du Seigneur. Et pour cela, nous allons prier que le Seigneur nous aide. Donc, prions ensemble. Ta parole nous dit qu'elle est vivante et efficace, Seigneur. Et nous te demandons que cette parole vivante et efficace pénètre au plus profond de notre être ce matin. Parle-nous, nous te prions, que nous soyons ceux qui sont à ton écoute. Et donne-nous de mettre en pratique ce que tu nous dis. Et cela par la puissance de ton esprit et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Si vous voulez suivre, c'est utile d'avoir la Bible ouverte, mais vous allez aussi voir sur l'écran les passages que nous allons mentionner. D'après une étude faite en 2018, la Belgique, avec un total de 35 jours de repos en moyenne par an, arrive en 17e position dans le monde. Un classement du nombre de jours de repos par pays, 17e, mais c'est pas mal. Par jour de repos, nous entendons à la fois les jours de congé à fixer librement et aussi les jours fériés que nous recevons grâce à ce pays. Mais avec 44 jours, vous imaginez 44 jours, le Brésil. Je sais que nous accueillons aujourd'hui des Brésiliens. C'est le pays, apparemment, d'après cette étude, qui compte le plus de jours de repos. Et si vous êtes du Corée du Sud, je suis désolé pour vous, mais avec 21 jours, vous êtes le plus bas dans le classement. Donc voilà, 17e position, 35 jours de repos, c'est pas mal si nous sommes des Belges. Selon une autre étude, aussi faite en 2018, la Belgique semble bien fournie avec des lits dans les maisons de repos pour les personnes de 80 ans et plus. Il y a apparemment 146 000 lits en Belgique pour de telles personnes. Le taux d'équipement, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de lits et la population de ceux qui ont plus de 80 ans, c'est de 25% parmi les plus élevés en Europe, ce taux, où la moyenne est à 14%. La croissance annuelle actuelle, apparemment, demande que nous grandissons le nombre de lits d'environ 2400 par an, il nous faut en plus. Mais cette étude estimait qu'il nous faut plutôt 3000 à 3500. Donc voilà, il y a du progrès à faire, mais grosso modo, pour les Belges, aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent trouver du repos. Mais quel repos? Quel repos? Car le repos, que ce soit congé, vacances, maisons de repos ou autres n'enlèvent en rien les soucis de santé dont nous pouvons expérimenter. Le corps et le cerveau qui se dégradent lorsque nous nous trouvons dans une maison de soi-disant repos. Les difficultés relationnelles lorsque nous sommes en congé. Les soucis financiers. La mort qui est encore devant nous. Dans un sens, c'est difficile, n'est-ce pas, de se reposer lorsque nous savons qu'il y a une grosse facture à payer. Lorsqu'il y a un conjoint avec qui je continue à disputer, lorsque je reçois un traitement dégradant à l'hôpital, lorsque la maladie d'Alzheimer m'envahit et je dois le supporter, lorsqu'il y a tout simplement un examen qui s'approche et je dois travailler. Le repos est assez relatif dans ce monde-ci. Mais c'est dans ce contexte que nous sommes appelé dans le texte que nous avons vu de fixer notre regard sur un repos qui est bien supérieur à ce repos que le monde nous offre aujourd'hui. Vous pouvez lire avec moi le verset 9 à 11 du chapitre 4 que nous avons lu parce que ça donne un petit résumé de ce que nous voulons voir. Il reste verset 9, donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Vous voyez là, ce texte affirme qu'il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. C'est un repos que nous partageons avec Dieu. Lui qui se repose, et nous devons nous empresser pour y entrer. Ça, c'est un peu le résumé de ce que nous allons voir ce matin. Et pour nous aider à y arriver, ce passage fait dans son ensemble un bref résumé du thème du repos dans la Bible, en se basant comme son point de départ sur le psaume 95. Que nous avons vu la semaine dernière, citer ce psaume au milieu du chapitre 3. Et donc la citation termine au verset 11 du chapitre 3 en disant ceci. « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Donc avec ce texte comme point de départ, l'auteur mentionne trois étapes différentes à propos du repos que nous voyons dans la Bible. Nous allons les parcourir. Donc c'est ici où il faut engager un peu plus le cerveau pour me suivre. Okay? Donc nous allons parcourir ces trois étapes afin de voir la portée des deux exhortations qui se trouvent dans ce chapitre 4 en ce qui nous concerne. Donc voici la première étape que mentionne notre auteur. C'est le repos que représente la terre promise. À partir du chapitre 3, verset 16, notre auteur nous pose un certain nombre de questions dont il donne lui-même la réponse. Verset 16. « Quels furent, en effet, ceux qui provoquaient Dieu après l'avoir entendu ?» Réponse. « Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. » Question 2. « Et contre qui « fut-il indigné 40 ans durant ?» Réponse, « Sinon contre ceux qui pêchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. » Question 3, « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ?» Réponse, « Si ce n'est à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'il ne put y entrer à cause de leur incrédulité. » Donc, résumé, il y avait une première génération qui sortait d'Égypte sous la main puissante de Dieu, mais cette génération n'est pas entrée ensuite dans le repos, la terre promise. Nous voyons cela plus tard dans les récits de l'Ancien Testament. Donc voici juste quelques versets tirés de Josué qui nous aident à voir qu'effectivement Josué considérait l'entrée dans la terre promise comme étant le repos. Chapitre 1 de Josué, verset 13, voilà sur l'écran. Souvenez-vous de ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a ordonné quand il a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous accorde le repos. Il vous donne ce pays. Repos égale le pays. Chapitre 21, verset 44. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés. Tout comme il l'avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Le Seigneur leur livra tous leurs ennemis. Le repos, donc, c'est d'être en paix, sans devoir craindre les attaques de l'ennemi, sans devoir se soucier pour la sécurité. Enfin, ils jouissaient, le peuple d'Israël, de ce repos en arrivant dans la terre promise. Alors, pour nous aider, nous allons essayer de projeter maintenant un petit diagramme, parce que j'espère que ça aide pour comprendre certaines choses par la suite. Donc, nous commençons en quelques instants. Voici avec le repos selon Hébreux 4, et voici la première étape. Donc ici, merci Samuel, ici nous avons la terre promise. Et il y avait tout un peuple sorti d'Égypte qui avait pour objectif d'arriver ici, dans la terre promise. Mais la première génération n'arrivait pas à cause de la désobéissance. Ils étaient, d'après le chapitre 3, verset 19, ils étaient incrédules. Mais ce repos, d'après ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, n'est qu'une étape dans le repos que Dieu accorde à son peuple. Et pour nous aider à voir le schéma plus large sur lequel le repos de la terre promise s'installe, la fin du verset 3 et du verset 4 du chapitre 4, si on peut juste revenir vers Hébreux 4, verset 3 et verset 4, ces deux versets nous renvoient à ce qui s'est passé lors de la création. Pendant 6 jours, selon le récit de la création, le Seigneur a travaillé. Il a créé la lumière, les ténèbres, le ciel, la terre, les planètes, les étoiles, la mer, les oiseaux, les poissons, les animaux et ensuite l'homme. Et après chaque jour de sa création, nous lisons, il y eut un soir, il y eut un matin, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au sixième jour. Donc maintenant, on revient vers notre diagramme. Merci, Sam. Et nous allons voir donc étape suivante. Voilà, il y a ici la création. Ici, nous avons mentionné la terre promise, mais on va en arrière dans l'histoire biblique. Et on va au moment de la création, là où, pendant 6 jours, Dieu travaillait pour créer différentes choses. Et après tout ce travail, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur se repose. Genèse chapitre 2, verset 1, que nous n'allons pas projeter, nous dit ceci. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et il en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Et nulle part dans ce récit de la Genèse est-ce que nous lisons après le septième jour, il y eut un soir, il y eut un matin, le septième jour. Non! On ne lit pas cela, car Dieu se jouit de son repos dès le début du septième jour, depuis que ses œuvres sont faites. Le septième jour du repos de Dieu continue. Alors maintenant, juste sur le slide, est-ce que nous allons voir cela, étape suivante? Et encore une, s'il te plaît, voilà. Donc le septième jour, Dieu entre dans son repos à lui. Et ce repos-là donc précéder le repos dont expérimentait le peuple dans la terre promise. Alors, juste une petite parenthèse nue ici. Cela ne signifie pas que Dieu est entré dans son repos, que Dieu ne travaille plus du tout. Non. Jean chapitre 5, verset 17, affirme que Dieu est à l'œuvre jusqu'à présent, comme Jésus, le Fils, aussi est à l'œuvre. Il tient le monde par sa parole puissante. C'est ça ce que nous avons vu au chapitre 1, verset 3 du livre des Hébreux. Il est à l'œuvre. Il travaille dans ce sens-là, bien entendu. C'est nécessaire pour que nous ayons encore la vie aujourd'hui. Mais ses œuvres de création, elles sont faites. Il est entré dans son repos. Et juste après, donc le début de ce repos-là, avant la chute, l'homme se trouve dans le jardin d'Éden avec Dieu. Il partage ce repos avec son Créateur. Il est dans la présence de Dieu. Mais ensuite, le péché de l'homme, la rébellion de l'homme quant à son Créateur, fait que l'homme est chassé de la présence de Dieu, ne se trouve plus dans le jardin d'Éden. Et ce monde-là, c'est le monde dans lequel on s'y trouve encore nous, ce matin, avec l'homme et la femme qui a du mal à maintenir de bonnes relations. Avec l'homme et son environnement où le travail devient difficile et pénible. Avec l'homme et son Dieu qui se sont séparés, où il n'y a plus de paix parce que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Le repos mitigé dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui lors de nos jours de congé, lors de nos séjours dans les maisons de repos. Ce repos mitigé, c'est à cause de la chute de l'homme. Mais la suite de l'histoire biblique après la chute, c'est le plan de sauvetage de Dieu par rapport à l'homme. Dieu qui intervient pour sauver l'homme de son péché et des conséquences de son péché. À travers un homme, Abraham, Dieu promet de lui donner une descendance qui lui appartient, le peuple de Dieu, et il promet de leur donner, ce peuple, un pays pour habiter, un pays ruisselant de lait et de miel. Entrer dans ce pays, la terre promise, c'était donc l'accomplissement de ces promesses données à Abraham. C'était un repos qui ressemblait en partie le repos dont jouissaient l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Mais, nous dit Hébreux chapitre 4, ce n'était pas ce repos-là, ce n'était pas le repos ultime. Car le repos comme catégorie précédait déjà la partie de la terre promise. Le repos de Dieu existe depuis le début du septième jour. Et continue notre auteur, dans maintenant verset 5 du chapitre 4 du livre des Hébreux. Le psaume 95 affirme que le repos existe également après l'entrée dans la terre promise. Pour Israël, bien après leur entrée, à l'époque de David, qui a écrit le psaume 95, le peuple se trouve en Israël déjà. Depuis un bon moment. Mais notre auteur réfléchit à cela et ensuite il écrit le verset 6. Donc si on peut avoir ça sur l'écran, Sam, ce serait gentil. Verset 6 de Hébreux chapitre 4. Ok? Verset 6. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela, d'un autre jour. Donc vous voyez ça. Le repos que Josué leur avait donné dans la terre promise n'était pas le repos ultime. Non, effectivement, verset 9 de notre texte, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et le mot ici employé pour sabbat ne signifie pas le jour de sabbat, mais plutôt la célébration, la jouissance qui a lieu lors du sabbat, avec louange et joie exprimée à Dieu. Comment entrer dans ce repos-là? Mais c'est là où nous arrivons à Jésus. Jésus qui avait dit, nous avons lu tantôt, maintenant nous pouvons suivre sur l'écran, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, à Jésus, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Donc le repos que Jésus donne n'est pas le repos symbolique que représentait le sabbat juif une fois par semaine. Non, le repos que Jésus donne, grâce à la nouvelle alliance scellée dans son sang, c'est un repos qui nous réconcilie avec Dieu, qui donne la paix avec Dieu, qui garantit le repos sabbatique dans le jardin d'Éden, donner juste un petit indice. Peut-être là, maintenant, nous pouvons revenir, si on veut, via le diagramme. Et donc, nous allons voir que ce repos de Dieu est suivi, ou ça continue, mais maintenant avec une nouvelle étape, qui arrive grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et de cela donne suite à le repos que Jésus donne. Mais c'est vrai que la réalisation de ce repos que Jésus nous donne est encore à venir. Si vous avez le texte d'Hébreux sous les mains, ici on n'a pas ce verset à projeter, mais le chapitre 2, verset 10, parle du projet de Dieu de conduire ses enfants dans la gloire. Nous n'y sommes pas encore dans la gloire. Le chapitre 4 nous exhorte de tout faire pour y entrer. Et cela signifie que nous n'y sommes pas encore. Le verset 10 du Hébreux chapitre 4 parle des œuvres que nous avons encore à faire. Non pas des œuvres pour nous justifier devant Dieu, mais des œuvres pour persévérer afin d'entrer dans ce repos-là. Alors, je pense, dernière fois, on revient vers le diagramme. Merci, Sam. Et donc, nous voyons que ce repos que Jésus donne, donne suite à ce repos céleste. Dans la gloire, le retour de Jésus, le repos sabbatique dans la patrie céleste, cela est encore à venir. Mais tout cela fait partie du repos de Dieu, repos. Dieu entrait dans ce repos dès le septième jour. Il y est toujours. Ça continue tout au long du récit biblique. Il y avait un petit moment où il se trouvait dans la terre promise. Mais cela parle d'un repos bien plus supérieur, encore à venir dans son accomplissement final. Ce n'est que lors du retour de Christ, lorsque la ville céleste descend du ciel, d'après le livre d'Apocalypse, que nous entrerons pleinement dans ce repos encore à venir. Voici la destination finale dont parle l'Épître aux Hébreux. Juste pour nous donner goût à cette destination finale, on va aussi projeter juste deux, trois versets d'Hébreux 11 et puis Hébreux 13, si on arrive à faire ça. Chapitre 11, verset 10, nous parle, c'est encore plus loin. Merci, voilà. Chapitre 11, verset 10, nous parle de quelqu'un qui attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 16, mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. car il leur a préparé une cité. Et puis verset 14 du chapitre 13 nous dit ceci, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ça, c'est notre repos céleste pour tous ceux qui ont confié leur vie en Jésus-Christ. C'est à ce moment-là, dans la patrie céleste, où le monde tournera de nouveau en rond, comme il faut. Sans maladie, sans la mort, sans des larmes, sans la peine relationnelle, sans le travail qui est parfois pénible, sans la futilité, sans la frustration. D'après Apocalypse 21, le deuil, le cri, la douleur n'y seront plus, car les premières choses auront disparu. Dans ce lieu, Dieu lui-même y sera. Il essuiera toutes larmes de nos yeux. Tout comme il était présent dans le jardin d'Éden, tout au début, avant la chute, une fois qu'il est entré lui-même dans son repos. Mais l'accomplissement dans la gloire, il sera de nouveau avec nous. La réalisation du projet de Dieu. Mais il y a un sens par lequel, grâce à Jésus, nous sommes déjà parvenus à ce repos. Les prémices de ce repos nous appartiennent grâce à Jésus. C'est principalement, oui, dans le futur, mais grâce à Jésus, en partie, nous y sommes. Et si c'est encore majoritairement futur, alors ce n'est guère étonnant que les deux exhortations, donc bravo, si vous avez suivi jusque-là, bravo à vous. Maintenant, on arrive à deux exhortations. Mais ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas, que ces deux exhortations de ces versets nous poussent à vouloir entrer dans ce repos-là. D'abord, alors, première exhortation. Soyons dans la crainte. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, que l'un de vous ne semble l'avoir manqué, selon une autre traduction. Apprenons effectivement de l'erreur de la génération tombée sous le jugement de Dieu dans le désert. Car nous sommes bénéficiaires, verset 2, de la bonne nouvelle. Elle nous a été annoncée, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Mais le problème de ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle au départ, c'est qu'ils ne l'ont pas reçue avec foi. Ou mieux, si nous suivons une autre traduction, ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçue comme il fallait. Et là, il évoque Caleb, il évoque Josué, eux qui pouvaient entrer dans la terre promise. Parce que les autres, au lieu de faire confiance à la parole de Dieu, qu'ils pouvaient y entrer, bien que les habitants de la terre promise avaient l'air grand et menaçant, ils avaient peur. Ils disaient, oh non, on ne peut pas faire confiance à Dieu. Et nous devons prendre en compte leur manque de foi, leur incrédulité. C'est peut-être surprenant d'entendre une exhortation d'avoir peur. Soyons dans la crainte. Ouh, c'est quoi ça? Je ne m'attendais pas à ça ici. J'attendais un message d'amour. Mais toute peur n'est pas une mauvaise chose, chers amis. Si vous me connaissez, vous allez savoir que je roule en scooter depuis un an. Et je me suis demandé juste cette semaine-ci, après un an de rouler en scooter, ça fait combien de kilomètres que j'ai roulé sans avoir vérifié que mes freins sont toujours bons. Et j'étais dessus, j'ai dit, ouh là là, je dois y penser quand même. Faut pas faire cette erreur de ne pas vérifier mes freins à un moment donné. Je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez me le demander la semaine prochaine. Okay? Ce n'est pas qu'il faut avoir peur ici, directement vis-à-vis de Dieu. Vous voyez ici, nous sommes appelés à avoir confiance en Dieu, en Jésus, en sa bonté, malgré notre péché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut craindre ceux qui n'avaient pas fait preuve d'une foi confiante, qui observaient d'un côté les œuvres rédemptrices de Dieu depuis l'Exode. et qui toutefois n'ont pas réagi avec foi, une confiance dans ce Dieu qui les a livrés. Et cela signifie qu'il est possible de posséder ce matin une foi purement intellectuelle, où j'adhère avec mon cerveau à certaines choses. Je sais que Dieu existe, je peux le dire. Probablement, si je suis là ce matin dans une église, je suis censé à penser que Dieu existe, que Jésus est le Fils de Dieu, que d'après Dieu, je suis un pécheur. Je peux intellectuellement dire oui, je suis d'accord avec ça. Que Jésus est mort pour les pécheurs. Il est revenu à la vie, il est ressuscité. Je peux dire oui à toutes ces choses-là qui peuvent donner la vie à ceux qui se confient en lui. Je peux dire oui, oui, ça, je crois ça aussi. Toutes ces choses, ce sont des adhérences intellectuelles. Il faut de telles choses, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai la foi authentique. Parce que, bien sûr, des personnes peuvent donner l'impression pendant un temps de posséder la foi, fréquenter une église, chanter des cantiques. Mais la foi authentique va plus loin qu'un consentement purement intellectuel. Il y a aussi un engagement émotionnel. Cela signifie non seulement que je dis oui, je suis pécheur, mais aussi que je regrette mon péché. J'éprouve de la honte par rapport à mon péché. Et non seulement j'affiche que Jésus est Seigneur et Sauveur par son œuvre à la croix, mais je me réjouis qu'il soit mon Sauveur, que j'ai envie qu'il soit mon Sauveur personnellement. Il y a donc un engagement émotionnel, mais il y a aussi un engagement de ma volonté. Je me détourne de mon péché. Au lieu de simplement dire que je vois que je suis un pécheur, ou je suis le Seigneur, malgré les différents défis qui se présentent devant moi. Donc je mets une confiance de ma volonté dans ce Dieu que je crois avec mon intellect. Peu importe les trois D, j'ai décidé de les appeler les D qui nous guettent. Donc, c'est-à-dire les défis, les désirs de notre cœur et les déceptions de la vie. Les défis, les désirs, les déceptions sont devant nous, comme aussi ces trois choses étaient devant la première génération qui est tombée. Mais nous sommes appelés, malgré ces désirs, ces défis, ces déceptions, de résoudre avec notre volonté de suivre le Seigneur. Une foi purement intellectuelle, détachée d'un engagement émotionnel de ma volonté, lorsqu'elle est confrontée par des choix difficiles, des tentations de tout genre, elle se détourne de Dieu. Elle se révèle ultimement une foi inauthentique, fausse. Et cela provoque la patience de Dieu, provoque la colère de Dieu. Soyons donc dans la crainte. Deuxième exhortation, verset 11 de notre texte, chapitre 4. Soyons empressés. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Cette exhortation est suivie d'un rappel de la puissance de la parole de Dieu. Vous voyez ça, verset 12. La parole de Dieu, car c'est l'expression du Dieu vivant, elle est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Ce livre n'a pas l'air d'être comme ça, n'est-ce pas? On pourrait penser que ce n'est qu'un vieux livre d'autrefois. On pourrait même commencer à ouvrir la Bible et poser des questions en ce qui concerne la foi, en pensant que, comme cela, je suis en train de faire un geste sympa envers ce Dieu qui se trouve dans ce livre. Mais une fois que nous creusons la parole de Dieu, une fois que nous lisons ce qui est écrit, nous découvrons que c'est bien plus qu'un livre. C'est la parole du Dieu vivant. En lisant cette Bible, nous sommes confrontés avec nous-mêmes, tels que nous sommes aux yeux de Dieu, avec notre péché. Car la parole, elle est puissante. Puissante, selon le verset 12, car elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Elle juge l'homme, les pensées de notre cœur. Dieu nous connaît. Il sait ce que nous sommes. On peut porter facilement dans une église des masques devant les autres, se cacher derrière ce masque. Mais jamais devant Dieu, vous savez cela, je l'espère. Verset 13, il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et tracé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il sait notre Dieu, la capacité qu'il y a en nous de nous détourner de lui. Et donc, ici, dans sa parole au chapitre 4, il nous exhorte à entrer dans ce repos sabbatique, à saisir donc la profondeur de sa parole, qui parle dès le début du septième jour de son repos, qui mène à son accomplissement ultime en Christ, dans la nouvelle création. Il nous exhorte à ne pas penser que nous échapperons le jugement de Dieu si nous nous détournons de lui, mais de prendre au sérieux la parole, à persévérer, quoi que cela nous coûte. À venir à Jésus-Christ, si nous n'avons pas encore la foi, c'est là où on doit commencer. Mais si nous avons commencé et nous nous sommes éloignés de lui par la suite, nous devons aujourd'hui, sans tarder, nous approcher de nouveau de Jésus, lui demander pardon et persévérer vers ce repos céleste. Et ceux parmi nous qui voient que le chemin n'est pas facile, nous devons nous encourager les uns les autres à entrer toutefois dans ce repos. Bon, je termine, chers amis, avec ce magnifique troisième strophe de ce cantique « Quel repos » que nous avons à chanter tantôt. « Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. » Après les travaux, les combats, les douleurs, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos céleste. Prions ensemble. Effectivement, Seigneur, nous voulons te louer pour le repos que nous avons en Jésus-Christ. Et nous voulons te demander que nous prenons en compte l'exemple de désobéissance de cette première génération, afin de ne pas rater nous-mêmes ce repos sabbatique que nous aurons dans la gloire. Nous entrons aujourd'hui dans ce repos grâce à Jésus. Donne-nous donc de revenir à Jésus, de venir à Jésus, et donne-nous de le suivre, quoi que cela nous coûte. Et cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen.